juste un mot, que je trouve super dans vos deux interventions et dans ce que vous faites là, un peu d'autosatisfaction, mais ce que je trouve génial, c'est qu'on aborde des questions qu'on n'aborde jamais. Parce qu'effectivement, la question de, comme tu dis, on a, alors le terrain, ben, c'est le terrain, hein, vous êtes bien d'accord, hein, la théorie, ben, tout le monde sait ce que c'est que la théorie. Et tout d'un coup, ce que vous posez là, c'est, mais non, ça ne se passe pas comme ça, je veux dire. Et quand on commence à dire, mais attends, en fait, c'est quoi un terrain, puis pourquoi je le séparais de la théorie, puis pourquoi c'est séparé, dire tout est remis complètement à plat. Et ça devient sérieusement intéressant, quoi. Et tout d'un coup, c'est, et la recherche, enfin, moi, je me rappelle de séminaires avec des collègues où, quand on posait ce genre de questions, on avait vraiment l'air de te dire d'où elle sort, elle, tu vois. Mais je veux dire, effectivement, c'est quoi la recherche pour, on fait comme si on savait tout ce que c'est, on n'en sait trop rien. C'est quand on rentre dedans qu'on commence à se poser ce genre de questions. Et moi, ce que je trouve super, c'est que, en parlant de méthodo, ça, je ne sais pas si tu pourras le faire, mais je trouve, avec Pierre Quétier qu'on verra demain, on disait, les étudiants veulent tous faire des entretiens, mais pourquoi faire des entretiens? Ça, je trouve que ça serait un super outil. C'est-à-dire, si tu demandais à des collègues de dessiner leur dalle, tu vois, je ne sais pas si tu pourras le faire, hein, mais je veux dire, ça permettrait peut-être à plein de pros de voir qu'ils vont dessiner quelque chose de très différent. Donc ils pensent qu'ils ont tous la même vision de leur, tu vois, de leurs étages, alors que pas du tout. Moi, je trouve que c'est une métaphore géniale, et je me dis que ça peut être des outils. Quand on parle de méthodo avec, hein, ça pourrait être des outils tout aussi efficaces qu'un parce qu'on fait, comment dire, quand on ne se prend pas au sérieux, on fait un truc, on s'aperçoit que c'est super solide, en fait. Alors que des fois, on essaie de faire méthodo, puis comme tu dis, on sort rien. Mais je trouve qu'il y a ça qui a été hyper intéressant, quoi. Oui, l'idée aussi, voilà, ce que je trouve génial, c'est d'y faire parler. Là aussi, on nous parle toujours de méthodo sur le terrain, mais la méthodo, une fois qu'on a notre fameuse matière et une fois qu'il faut écrire, on n'en parle jamais. C'est comme tu dis, c'est comme si on ne faisait que d'écrire ce qu'on avait fait. C'est jamais comme ça. Enfin, moi, j'ai eu cette expérience parce que je ne voulais pas écrire. Et quand Pierre Quétier a voulu écrire mon premier article, j'ai dit bon, mais je pensais que j'allais écrire ce que j'avais fait, mais je n'ai pas pu. C'est-à-dire que pour le formuler, il fallait que je l'analyse. En fait, mes analyses, elles ont eu lieu en écrivant, parce qu'il fallait bien que je le dise. Et je ne savais pas le dire. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai fait de la théorie. Parce que la théorie m'a permis de trouver les mots pour le dire. C'est joli. Mais c'est vrai, ça, je ne pouvais pas le dire sans. Donc cette imbrication que tu décrivais, ben, le lien théorie-terrain analyse, c'est, ça ne se passe pas du tout comme ça. D'ailleurs, on prend pas le temps de le décrire, mais je suis sûre que si on se décrivait comment on a fait, on aurait chacun des trajectoires vachement différentes, quoi. Et donc du coup, je me dis qu'il y a aussi on pourrait faire des étages, parce que ce que tu racontes de comment faire parler ta matière, c'est le même problème que quand tu dois faire parler, tu prends des entretiens, par exemple. Tu fais des entretiens, tu as une matière, puis du coup. Il n'y a rien là-dedans. Bon. Donc, tu pourrais déplacer les méthodos, elles pourraient aussi se déplacer d'un strat à l'autre. Quoi. Enfin, voilà, je trouve ça super intéressant.
Oui, je rebondis un peu sur ton intervention, mais qui, du coup, rebondit aussi sur ce qui est.
On n'arrête pas de rebondir aujourd'hui.
Oui, on va rebondir. En fait, ça rejoint un peu une réflexion qui m'était faite, en fait, qui était l'idée de dire que quelque part en fait explorer c'était peut-être poser des questions en fait à l'endroit où on a des réponses, quoi. Enfin, habituellement il y a des réponses, donc peut-être c'est par exemple le fait de dire que quand on fait de la recherche il faut qu'on fasse des entretiens, et quelque part la réponse à la question quelle méthode je vais employer, en fait, c'est tu fais un entretien. Donc, en gros, finalement, ça ferme en fait la question. Et le fait de nous positionner de manière différente, en fait, ça réouvre en fait ces réponses-là et de poser des questions. Et quelque part, explorer, en fait, c'est ou rechercher, c'est poser des questions. Un truc comme ça, quoi.
Un truc comme ça.
Moi, je
voulais
rebondir. Allez, c'est marrant, non. Quand même. Sur la question, j'avais envie de dire deux choses, mais du coup, je vais d'abord rebondir sur l'entretien, parce que je rebondirai sur Elise. Et du coup, moi, l'entretien, c'est une question que je me pose vachement, parce que je me rends compte que j'ai envie encore d'utiliser, mais plus de la même manière. Et parce que plus j'explore et plus je me sens à l'aise aussi dans des espaces où j'étais moins à l'aise avant, ou plus j'ai l'impression de participer à ce que fait du bruit, à faire du bruit avec les personnes avant que j'étais en écoute, et que l'entretien aujourd'hui me permet de revenir à un niveau d'écoute peut-être initial que j'ai perdu à travers l'implication. Et en fait, bah, par exemple, je pense en ce moment dans la compagnie Augustine Turpo, la compagnie de théâtre avec laquelle je travaille, donc on est tous sur des recherches assez différentes. Et je leur propose, c'est encore un truc qu'on n'a pas encore fait, mais j'espère pouvoir vous en parler assez prochainement quand on aura expérimenté, d'utiliser donc du coup l'entretien les uns avec les autres, de manière tournante, et à la fois pour comprendre où sont nos recherches individuelles, à la fois pour ensuite faire un travail de calque pour voir où est-ce qu'elles se croisent, mais surtout en fait pour revenir à une écoute des uns vers les autres, parce que pour les entretiens il y a très peu de questions, donc semi-directives, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou même zéro direction, on peut revenir vraiment à un stade que je trouve très intéressant, où on se tait quasiment la plupart du temps et l'autre a l'occasion de parler si on arrive à échanger ça. Donc l'entretien, moi c'est vrai que c'est une grosse question, mais que j'ai envie, puis j'en ai déjà parlé aussi, j'utilise aussi avec mes parents, pour leur questionner justement et un petit peu sur le schéma de comme tu disais tout à l'heure, de leur questionner sur, bon bah moi je leur explique ma démarche, je leur dis, vous à l'université, on vous a demandé de faire des choses comme ça ou pas, ou comment ça se passait, donc pour faire parler de choses où on a un commun justement. Et ensuite, je me rends compte que j'ai des groupes pendant 3 heures parler, chose que j'avais peu faite, ou alors à table, quand ils racontaient des blagues qu'on a entendues un fois, quand j'étais plus gamin ou quoi. Et là, je passe vraiment 3 heures à écouter les parents parler. Oui, et qu'on a du témoignage que ça peut constituer à terme, ça me permet, moi, de revenir sur des choses très concrètes. Enfin, voilà, c'était pour l'entretien. Et par rapport à moi, ton texte, je le trouve super intéressant, Régis, parce que j'ai. Ben, moi, j'essaie de trouver comment partir un peu en. D'explorer un peu les différentes manières de pouvoir partir en thèse. Et on lit des documents sur les chiffres, et en fait, voilà, on a des choses très concrètes, mais on comprend rien d'ailleurs. C'est des documents officiels et compagnie, et quand j'ai lu ton texte, il a eu plusieurs vertus. Déjà, il explique très bien les choses, mais sans entrer dans des documents où tu es marqué à NRT, là, je fête, et tout. Bon, voilà, des histoires d'impôts, de trucs, bon, bref, c'est concret, et en plus, ça permet de penser la thèse, enfin, le contrastif, comme vraiment un espace de recherche assez particulier, justement, de négociation, et donc, du coup, comment il y a un vrai travail de recherche dans l'espace de négociation du chiffre et que c'est pas juste un contrat. Et que en fait, et ta manière d'en parler, je trouve que ça amène beaucoup de sensible là-dedans. Et donc du coup, vraiment une phase de travail, quoi. Le chiffre, la constitution de cette chose-là, c'est partie prenante du travail de recherche. Et je trouve que ça, en même temps, ça a ce côté, ça peut peut-être faire pleurer aussi, parce que tu dis, bon, bah, déjà avant même de commencer un contrat, chiffre et donc le travail engagé, la commande et mettre, insérer son objet d'étude, comme je disais, à l'intérieur de ça. Qui est déjà un truc, et ben il faut. Enfin, c'est déjà un travail énorme, ouais. Et je trouve ça super intéressant parce que ça demande de se mettre au travail différemment, à un autre endroit, et ensuite pour penser le travail qui va être fait après. Donc, du coup, s'il y a des personnes qui sont en contact avec des gens qui veulent faire des chiffres, qui s'intéressent, je trouve que c'est un document super intéressant à proposer à des étudiants. Voilà.
Et le but, c'était aussi de ramer pendant une année et demie, transmettre un truc.
Mais ouais, je trouve que c'est
ça. Ça va, je pense qu'à la limite, tu aurais très bien. Enfin, quelque part, peut-être de manière globale, mais ça pose aussi le truc de se dire moi, j'ai pas de contrat doctoral, par exemple, mais imaginons que j'en ai un. On pourrait très bien dire que, en fait, la recherche, elle commence à partir du moment où on a le contrat doctoral. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à ce moment-là, il y a, enfin, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais il y aura une réponse en disant la recherche, elle commence à cet endroit-là. Et en fait, là, je trouve que là, toi, tu as posé une question, en fait.
Sauf qu'on n'en a pas tous des contrats doctoraux.
Non, mais c'était juste pour donner un exemple. C'était pas pour amener un débat sur le contrat doctoral, en fait. C'était juste pour dire qu'à cet endroit-là, enfin, je trouve que ton article et ton propos de ce matin, en fait, il pose une question, en fait. Et du coup, tu as fait une recherche, en fait, sur le. Il l'a transformé en recherche.
Du coup, c'est une vue quand même a posteriori.
Oui.
Voilà, c'est un tas de processus aussi qui sont passés. Quand on a commencé à construire à discuter de ça, hein, avec l'association, c'était pas. J'avais pas dans l'idée que ça allait produire ça. Enfin, voilà, c'est la relecture a posteriori où je me dis qu'en fait il y a eu cette construction d'une commande et que, effectivement, du coup, ce qui est bizarre, c'est. Et à un moment donné, j'étais assez déconcerté. Je sais pas trop comment je le réengagerais, ce truc-là, parce que je me disais, mais en fait, tout ce que je fais là, c'est déjà de la recherche. C'est déjà ma recherche. C'est déjà mon terrain. Et en même temps, c'est pas ça mon objet de recherche. Et du coup, je commençais à partir dans des pistes sur la théorie des organes. Enfin, du coup, j'ai vu plein de choses de l'organisation qui m'entourent, y compris sur la question des marges, enfin voilà, cette question de la place des parents. On venait me confier, moi, cette mission de développer un service pour traiter cette question de la place des parents et remettre les parents, repartir des parents pour concevoir un dispositif. Et en même temps, l'association qui m'emploie, elle ne le fait pas du tout. Et du coup, j'avais l'impression qu'on me demandait moi de traiter ça, mais on me mettait à la marge de l'association pour. Du coup, il y avait ces effets à la marge, j'allais dire, avec toutes les nuances que ça apporte. Mais c'était un peu déconcertant de se dire, est-ce que c'est déjà de la recherche, est-ce que c'est déjà ma recherche, ou est-ce que ça va démarrer en fait. Je crois qu'il y a un peu des deux.
C'est un site.
C'est un site.
Mais ça rejoint, on parle de socianalyse tout à l'heure. En socianalyse, la recherche, elle commence au moment de la construction de la commande. C'est-à-dire quand les gens disent faut venir nous voir, enfin moi j'ai pas d'expérience précise d'intervention, mais quand une structure dit venez nous voir parce qu'il y a un problème, elle commence là la recherche. Effectivement, même l'entreprise et l'organisation, elle a l'impression qu'elle va commencer quand les gens vont venir dans la maison, mais ça commence là. Et en même temps que l'objet de recherche dans un vrai terrain, puisqu'on parlait de terrain, que l'objet de recherche il change en cours de route, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est pas rare qu'on dise le problème ou la question est là. Ben non, quand on a commencé à bosser, on dit ben non, elle n'est pas là. Là aussi, elle sort du cube.
Je suis d'accord. Et puis à partir de là, on fait le raccord avec Benjamin, c'est-à-dire intériorités, tout à coup se mettre au travail. Ça commence là, et puis tout à coup les antériorités, etc.
Ouais, ouais.
Et la recherche est toujours sa propre antériorité. Ça me paraît. Et je faisais la différence entre des préalables. Si on pose trop de préalables, avoir son beau terrain, etc.,
oui,
avoir son lieu, etc. Alors que la question des antériorités est beaucoup plus féconde.
Plus intéressante.
Une remarque rapide, ce qui m'intéresse dans les différentes prises de parole, c'est que tout à coup, on prend la méthode lorsqu'elle nous capacite. Parce que tu disais l'entretien parce qu'il transforme la qualité d'écoute, ça me paraît tout à fait fondamental. Et à partir de là, je suis tout à fait prêt à discuter, et oui, en termes de technicité. Effectivement, il y a une capacité qui vient d'être produite parce que l'outil, la méthodologie. Je trouve que ça, c'est intéressant de reprendre la méthodologie et de la faire revenir à ce qu'elle nous rend capable de faire. Là, la publicité qui est.
Une question, Régis, que je posais quand même, c'était sur le. Je sens qu'il y a une partie de ton test que j'ai peut-être lu moins attentivement que l'autre, mais c'est la question de l'appropriation, en fait, de la recherche, la propriété de l'architecture, justement, on en parle. Et j'ai l'impression que c'est quand même un truc, ça, qui reste en suspens dans ton texte, ou une question, évidemment, qui peut peut-être pas de réponse, mais comment tu est-ce qu'il y a un moment de dépossession, ou en même temps, tu arrives à agencer les choses, mais en même temps, tu signes rien, à un moment, tu as dit, tu signes aucun papier, tu es au milieu de tout ça, je sais pas comment tu t'en es où par rapport à ça.
je répondrai aussi. C'est là par contre
cette question. En fait, c'est une question que j'ai découvert à la fin de l'écriture du texte. Du coup, je suis reparti sur toutes mes notes, donc de toutes les positions, retracé toutes les étapes de la construction de la cifre. Et plus ça allait, enfin, j'ai jamais vu qu'il y avait ce modèle de l'entreprise. Voilà, bon, pourquoi pas, il y avait cette nécessité de traduction et en même temps. Il y avait je butais sur des trucs et j'avais du mal à comprendre, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, ce dans quoi s'inscrit la NRT et la CIFRE, c'est une politique publique en soi, en fait. C'est une politique publique de valorisation de la recherche. Et du coup, dans chaque université, il y a un service de valorisation de la recherche. À Paris 8, il y a un service de valorisation de la recherche. Et en fait, il y a un discours qui est produit autour des sciences humaines et sociales et autour de la recherche en général, qui s'inscrit vraiment dans une logique de compétition internationale. C'est comment la recherche en France se traduit pour en brevets. Pourquoi il y a, je ne sais plus combien de fois, plus de brevets en Corée, alors qu'il y a beaucoup moins de doctorants. Et du coup, on est nous, du lieu des sciences humaines et sociales, quand on développe une recherche dans le cadre d'une CIFRE, on s'inscrit du coup dans ce discours-là. Et la propriété intellectuelle, en fait, elle fait partie de ce discours. C'est-à-dire que valoriser la recherche, c'est en fait valoriser la recherche en tant qu'elle va pouvoir avoir des effets, en tant qu'elle va pouvoir produire des choses qui ont de la valeur, donc en tant qu'elle va pouvoir déboucher sur des brevets. Et du coup, tout le discours de la valorisation de la recherche, il est arrimé au brevet. Donc bon, moi, dans les sciences dures, ça a peut-être du sens, mais c'est vrai que pour nous, c'est un peu compliqué à...
Mais ça peut être en termes de production de nouvelles connaissances, la valorisation de la recherche sur un terrain de recherche donné. Alors moi, j'aborde cette question dans ma thèse. Qu'est-ce que mon terrain de recherche va apporter? Et va m'apporter, moi, en tant que chercheur, va apporter de nouveaux... au thème qui est abordé, parce que je veux dire, par exemple, si moi je travaille sur l'immigration ou sur l'insertion socio-professionnelle des femmes migrantes, il n'y a pas que moi qui ai travaillé sur cette question. Il y a plein de gens avant moi, il y en aura sûrement d'autres après moi. Donc, qu'est-ce que ma recherche va apporter de nouveau et comment ces nouvelles connaissances que je vais produire sur cette thématique-là, qu'est-ce que ces nouvelles connaissances que je vais apporter sur cette thématique-là peuvent apporter, pas seulement à la communauté universitaire, mais aussi à l'extérieur.
Mais ça, je suis d'accord, hein, mais je pense que l'université s'en fout. Enfin, en étant un peu provoque, je pense que la politique publique de la valorisation de la recherche s'en fout complètement.
Mais en fait, c'est ça le but de la CIR, c'est ce que vous allez leur apporter.
Non, enfin oui, mais en même temps, c'est vraiment, on est là sur ce modèle-là. Et je pense que, si moi je trouve problématique, c'est-à-dire que du lieu des universités en sciences humaines et sociales, on n'est pas opéré cette traduction du modèle de l'entreprise à celui des sciences humaines et sociales, pour le traduire dans ces termes-là. Et c'est la même question. Enfin, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait un écho avec la question de l'évaluation de la recherche, où on tombe sur l'article où la recherche en sciences humaines et sociales, elle est évaluée à partir des critères des sciences humaines. Et on est sur le même type d'écart et d'impossibilité. C'est-à-dire que comment on va évaluer, qu'est-ce que va produire une recherche en sciences humaines et sociales, en éducation, etc., en sociaux. Du côté des sciences dures, ben forcément, ça va produire des résultats qui vont être mesurables, qui vont être valorisables en termes de production industrielle. Nous, on n'est pas là-dedans. Et pourtant, on reste sur ce modèle-là. Et juste pour finir de te répondre, Thomas, la propriété intellectuelle, c'est la condition pour que tout ça soit possible. C'est-à-dire qu'en amont de toute cette logique de brevet, etc., il faut penser la propriété intellectuelle. Et du coup, si tu fais... quand un doctorant s'inscrit dans le cadre d'une activité recherche et développement d'une entreprise, bah la propriété intellectuelle est fondamentale parce que ça va être un enjeu entre le labo, l'entreprise et le doctorant. Et selon à qui on dit qu'elle est, ce sera la propriété du brevet aussi. Ah oui. C'est en termes monnayables. Ouais. Donc là, du coup, la CIFRE, elle prévoit tout un tas d'accords qui vont dire que les résultats de la recherche vont être exploitables tant de temps après. Donc là, moi, où je m'en sortais jusqu'à il y a quelques semaines, c'est que la propriété intellectuelle, c'était rigolo parce que dans mon association, il y a deux directrices. Il y a une directrice technique qui a une formation de psycho et une directrice administrative et financière qui vient de l'entreprise. Et là, la directrice administrative et financière, c'est la première question qu'elle a posée quand on s'est rencontré avec Pascal, c'est de dire, la propriété intellectuelle, la thèse, elle appartient à qui?
Oui, c'est une bonne question.
Alors, c'était une bonne question.
L'humanité.
Pour répondre comme ça, tu vois. Et en fait, elle s'est référée à des documents qu'elle a trouvés par ailleurs, et dans le contrat de collaboration, puisque le dernier document qui est établi dans le cadre de la CIP, c'est le contrat de collaboration. Entre le labo et l'entreprise, donc l'association, la directrice a proposé de marquer que la propriété intellectuelle était celle du doctorant. Ce qui était pour moi un gros soulagement, parce que je pensais qu'elle allait poser en question et en problème. Et j'avais prévu tout un argumentaire pour essayer de contrer ce truc-là. Donc c'était quand même pas évident. Et là, on se retrouve dans une situation assez, je sais pas si on peut dire rigolote, cocasse.
Ça aurait pas été le cas si c'était le cas de la production d'un brevet, ça c'est clair.
Non,
la propriété.
Et non ça aurait pas été le cas. Alors moi,
donc là, il n'y a pas un enjeu l'enjeu, il n'est pas très gros. C'est
l'enjeu
pas
pour l'association, il est plus du côté...
L'enjeu qui est gros, c'est la parentalité. Est-ce qu'ils ont une idée des représentations de
Mais je veux dire, il n'y a pas la création d'un nouveau modèle industriel, etc.
Je sais pas, un éclairage autour de du concept de parentalité, qu'est-ce qu'ils en entendent?
Est-ce que eux attendent que j'amène un éclairage? J'espère que non.
T'as eu une commande là.
Ouais. Non, la commande, elle est plus. Comment, la manière dont elle a été formulée, c'est plus pouvoir proposer des dispositifs, des modes d'intervention, etc. Innovants dans le sens où c'est l'idée que ce soit des manières de faire qui partent plus des parents, alors qu'actuellement ça part des professionnels. Mais c'est pas une commande sur la définition de la parentalité.
Oui, mais indépendamment, si tu voulais intervenir, non, je vais quoi de la question de la parentalité, c'est seulement pour souligner, vous aviez raison, qu'il y a des enjeux tout à fait majeurs, si c'était qu'ils ne sont pas aux endroits, classiquement, du brevet, de la propriété intellectuelle. Oui. Moi, ce qui me déconcerte, c'est la situation baroque et cocasse dans laquelle on est, c'est ceux qui viennent nous bloquer là, c'est Paris.
D'accord. Le dernier épisode, c'est ça, c'est
Paris 8 qui vient. Alors qu'on a un site de valorisation passionnant, c'est-à-dire comment dans une fac comme Paris 8, on peut poser la question de la valorisation de la recherche, en échappant effectivement au discours dominant, et à revenir effectivement sur des questions d'intérêt commun, d'intérêt collectif, de valeur collective. Donc la thèse de Régis a une valeur commune, en tant que commun, etc. Et c'est étonnant qu'on ne puisse pas ici l'élaborer politiquement, et que ce soit ici qu'on vient... d'être bloqué sur cette formulation tout à fait passionnante où c'est le doctorant qui n'était pas sûr.
Et c'est bloqué juste pour que ce soit compréhensible, c'est bloqué sur un argument juridique. Donc c'est, le service de valorisation de la recherche qui dit ah, papa, vous avez fait votre truc là, elle nous avait envoyé un modèle, elle proposait un modèle, nous, bêtement, elle a compris que c'était une proposition. En fait, elle avait su son truc, elle a été vexée. Donc, elle est venue dire, attendez, vous avez fait votre truc dans votre coin, sans tenir compte de ce que je vous avais proposé. En fait, la signature, il faut que ça passe par moi. Et moi, j'ai des arguments juridiques que je vous avais proposés dans le cadre du modèle, qu'il va falloir appliquer. Donc, il faut tout refaire. Alors qu'on avait réussi à un accord avec l'association. Voilà.
C'est là qu'on a une réponse à la question.
Oui.
Et pour finir avec cette histoire,
c'est qui ça? C'est le service de valorisation de la recherche de Paris 8. Et juste pour l'enjeu, quand même, pour l'association, c'est un enjeu de confidentialité, quand même.
Ils auraient quand même pu expliquer un peu mieux que ça.
Alors, si j'avance, moi, en tant que directeur de thèse, alors, quand la tradition a émergé, moi, j'ai eu le premier réflexe de mon rapport gauchiste à l'institution où j'explique. À Régis, très simplement, tu as mon ennemi, tu re-scénarises et tu fais ce que tu veux de tes résultats, voilà. Et tu publies ce que tu veux, voilà. Donc, ce qui me paraît, ce qui reste fondamental. Mais après, quand on avance, je prends la mesure des enjeux. Et le dernier point d'achoppement, les meilleurs leviers. Et ça me remet en tête une réunion des directeurs de labo confrontés, effectivement, à l'expertise juridique qui se constitue très fort à Paris 8, où les directeurs de labo ont simplement fait revenir nos prérogatives classiques et anciennes. Et là, le directeur de la recherche a eu beau jeu de dire on ne vous retire rien du point de vue prérogatif, vous êtes, etc. Si ce n'est que les conventions, il faut qu'elles soient dans les plans d'âme juridique, et donc ça passe par nous. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire, nous les directeurs de labo, c'est d'ouvrir le débat politique, qui est celui qu'on ouvre à l'instant, c'est-à-dire la valorisation, comment on la pose, comment on la formule, etc. etc. Mais c'est après coup, moi j'ai pas été plus dégourdi que mes collègues, c'est-à-dire qu'on s'est laissé piéger, alors qu'il fallait déplacer radicalement en disant il y a un enjeu de valorisation, si ce n'est que le modèle dominant, c'est celui qui va nous amener au brevet, alors que nous, on a un modèle qui est autre, qui est celui, effectivement, de la construction de commun, etc. Et ta recherche s'inscrit dans cette perspective-là. Mais c'est de l'après-coup, moi, sur le coup, j'ai pas... Et donc, ce point d'achoppement qui a commencé à m'énerver, j'ai été vexé parce que j'ai découvert que le directeur de labo, j'étais rien dans ce paysage, je m'en suis remis. Et maintenant, je trouve qu'on a quelque chose qui donnera lieu, de ta part, à un nouvel écrit. Ça fait la toute chouette, quoi. Donc, c'est bon goût pour la recherche. En fait, il faut faire en sorte que ce contrat. Maintenant, c'est...
Une remarque très brève, ça pose vraiment la question à qui appartient la connaissance produite par la recherche universitaire. Et à l'époque où on parle de données ouvertes, d'archives ouvertes et de libres publications, là on se heurte à une autre logique qui est une logique industrielle, économique. C'est vrai que c'est un débat intéressant, mais c'est un enjeu quand même assez fondamental dans le. À l'évolution actuelle de ce qu'est la recherche universitaire.
Mmh. Ouais, et puis en fait, il faut que tu ton sujet de thèse, il est sur thèse.fr, quoi. Donc en gros, il est protégé. Et il n'y a personne qui peut faire de recherche en fait, sur le même domaine que toi. Enfin, je trouve ça complètement. C'est pas normal. Quoi.
Complètement quoi? Pourquoi c'est pas normal?
Bah, c'est-à-dire que moi, tu vois, je suis musicien et j'en ai rien à foutre de ce que les gens font de la musique que je peux produire. Quoi. À partir du moment où je l'ai produite, en fait, je m'en fous.
Oui, non, mais d'accord, mais il y a quand même. Il y a quand même un problème de droit moral, ouais, un problème de droit commercial.
Ce qui est intéressant en fait, maintenant, tu vois, dans ta manière de te positionner, en fait, c'est parce que tu as le filtre en fait du juriste, quoi. Ou tu vois, j'ai bien conscience qu'effectivement, il y a des enjeux de propriété intellectuelle, etc. Mais juste, j'ai un peu décidé en fait de me positionner autrement. Voilà.
Je fais court, je rebondis. Ta thèse est déposée sur thèse.fr. Il se trouve qu'ils ont raccourci le titre.
Ouais.
Donc le titre, c'est seulement Do It Yourself.
Ouais.
Donc tu bloques, donc ça ne se produira pas. D'autres recherches, ils pourraient se faire sur ce sujet. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Mais donc oui. Il y avait un sous-titre qui venait préciser.
Ils ont enlevé.
Ils ont l'opération de raccourci fait que tout à coup, Claude se retrouve entre guillemets propriétaire d'un sujet. Ouais. Et qui fait que quelqu'un qui souhaiterait prendre en tout cas le même intitulé se retrouve bloqué. Voilà. C'est simplement pour.
Non, mais c'est
en gros, c'est des détails qui attirent l'attention sur les sujets dans lesquels on
par rapport à ça. Par rapport au sujet en plus sur lequel je bosse, je veux dire. Enfin, moi, je m'en fous, quoi. Et je pense qu'il y a intérêt à ce que ce sujet il soit travaillé, quoi. Et pas forcément par moi. Enfin, je ne vais pas déposer un brevet sur le do it yourself, quoi, c'est pas possible. Ni un brevet, ni une thèse, ni quoi que ce soit. Ça, non, mais ça n'a aucun intérêt. Au contraire, il y a ça. Je trouve que, du coup, en fait, ça fait des gens qui font de la recherche dans le cadre d'un doctorat, ça fait des spécialistes, quoi. Et quand on sait que la critique que les anarchistes, par exemple, enfin, moi, je ne suis pas anarchiste, mais je m'intéresse aux questions qu'ils soulèvent, la question de la spécialisation. Et justement, bah, ça fait des gens, des spécialistes, quoi. Et donc, éventuellement, des gens obtus aussi. Enfin, ou en tout cas, très, très centrés sur un truc détaillé, etc. Qui fait que, comment on fait pour...
Non, pas ce que tu dis. Je comprends rien à cette approche. Ça veut dire quoi? Tu peux faire le même travail en changeant le titre, en gros. Tu peux poser sur le même sujet.
Non, mais de toute façon, je me dégage.
J'ai eu le cas de quelqu'un qui ne travaillait pas du tout sur la vie, qui était dans l'ancien laboratoire. D'ailleurs, ça m'a choqué. Qui était dans l'ancien laboratoire que moi, celui dans lequel j'étais avant d'être à Expedis, et du coup, qui travaillait carrément sur une thèse. Et il a fallu 6 mois après que moi je sois arrivée, que j'ai déposé mon projet, que j'ai été inscrite, et vient de me voir, elle me dit, je travaille sur la même thématique que toi, et je souhaiterais travailler avec toi. Je veux dire, pour ne pas être seule, je lui dis oui, mais il n'y a pas de souci. Après, la fille, elle a disparu. Et donc moi, curieuse comme je suis, je vais regarder sur le répertoire des thèses et je vois qu'il travaille complètement sur autre chose. Et donc je lui ai écrit, je lui ai dit, mais parce que j'ai 100 mails bien sûr, je lui ai dit, mais à la base toi tu travailles pas sur cette thématique parce que je comprends pas trop ce que tu m'as raconté. Je viens de jeter un coup d'œil sur le répertoire des thèses et je vois que tu travailles pas du tout sur la même thématique que moi. Il m'a dit, ah non, mais ça, c'est mon ancien sujet. Donc, 2 ans après, je me suis rendu compte que, en fait, l'intitulé de sa thèse avait complètement changé.
Moi, c'est là-dessus. En fait, il y a 2 choses dans ce qu'on évoque là. C'est le côté un petit peu formel, et évidemment, je rejoins complètement tout ce que vous dites. D'autant qu'avec n'importe comment. Les diffusions internet piratées, non piratées, à la limite de la limite, enfin je veux dire, il y a une diffusion qui nous échappe très rapidement et moi j'ai envie de dire quelque part, tant mieux, quoi, c'est le partage du savoir aussi. Et le deuxième aspect, c'est dans le contenu de. Deux fois là, très récemment, j'ai constaté que ce que j'avais écrit, ben, quelqu'un d'autre l'avait déjà écrit quelque part. Et j'étais en premier lieu, j'étais déçue, je disais, 2 ans d'élaboration, de réflexion, d'avancée, en effet, de va-et-vient entre le terrain, un début d'analyse, une problématique qu'on visait de reviser, etc. Enfin, c'est, tout ça, on a l'impression d'accoucher de quelque chose, et quand on réussit à écrire une petite communication, on est super content parce qu'on aboutit quelque part. Et puis, au détour d'une recherche, on tombe sur un article qui ressemble énormément à ce qu'on a fait. Enfin, on se dit, bon, zut, ça avait déjà été fait. Et moi, c'est la question que je pose, qui est un petit peu issue de vos deux témoignages, que j'espère je vais réussir à formuler. Comment nos propres recherches peuvent s'enrichir de celles des autres? Comment la nôtre peut aussi contribuer, j'espère, à faire avancer le Schulblick, sans qu'on soit... Ouais, et puis ça rejoint ce que tu avais évoqué, Claude, en début de matinée, c'est le vide, quoi. On établit un dispositif, un cadre, et puis après, ce qui va se passer à l'intérieur qui peut nous dépasser. Et... est-ce que notre problématique, c'est pas juste de poser un cadre à un moment donné, à l'issue de souvent de parcours bien complexes, croisés, et que nos contenus croisent ceux des autres? Moi, ça me paraît être plutôt de l'ordre de la richesse, du partage, et que... C'est comme ça que j'en vibre ma thèse. Alors après, je ne sais pas comment... Enfin, qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai écrit et qui a déjà... Enfin, je constate qu'aujourd'hui, ça a plus ou moins été écrit par d'autres. Ça a fait l'objet de publications, d'articles. Donc si moi, je persévère, c'est moi qui va apparaître comme une piagiat, alors que ce n'est absolument pas vrai, je vous jure. Ça a vraiment été issu de mon terrain, de mon expérience. Donc, à moi maintenant de trouver l'échelon où je vais pouvoir, bien sûr, utiliser ce que j'ai fait et m'imprégner du travail des autres. Mais pour aller, la question en suspens, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette thèse, quoi? À quoi ça sert de faire une thèse, je ne sais pas, pour me regarder le nombril? C'est quand même bien pour servir... l'intérêt collectif. Enfin, moi, personnellement, j'ai la prétention de croire ça. Je sais pas si j'ai pas été un peu confuse ou c'est clair ce que je fais.
Juste une chose, parce que alors, j'aurais envie quand même de dire des choses en rebond, mais je vais pouvoir rester sur ce que j'ai général avant. Outre le fait, si quand même, peut-être on a su quand même, que moi ce que j'ai beaucoup aimé dans la scénarisation un peu improvisée ce matin, quoi, ça, c'est qu'on est tous à différents moments sur le processus de thèse, je pense tous les quatre, et qu'en même temps, on nous parle d'une linéarité, et en même temps, dans la rencontre et dans la manière dont les choses circulent sur les différentes expériences, il y a autre chose qui se passe et qui s'ouvre, et qui font qu'il y a des reprises et des réengagements de processus. Je trouve chouette, mais surtout ce que nous on a beaucoup ramé avec Thomas quand on était sur la question du bon, comment faire terrain. On a commencé à se dire bon bah comment on fait émerger du terrain, et puis dans par contre l'institution, c'était quelque chose qui nous résistait dans la manière de l'aborder. On avait donc le deuxième moment qu'on avait prévu ce matin et qu'on n'a pas pu vivre ensemble, c'était un moment de cartographie, de se dire bon bah maintenant qu'on a fait émerger notre terrain chacun, prenons une feuille et du coup essayons de dessiner le dans par contre l'institut. En disant que nous on l'avait pas fait parce que si on l'avait fait on n'aurait pas voulu oser vous le proposer. Mais et ce que je trouve intéressant dans les échanges là et qui transparaît dans la proposition du travail de dessin des strates pour toi Régis, et puis toi Sébastien dans la question de la vacation, la question des différents endroits où tu te situes, c'est que ça densifie autrement la question complètement, en disant que déjà il n'y a pas une institution, il y en a plusieurs, il y a celle de l'université, il y a celle des différents interlocuteurs, etc. Et que donc du coup ça se pose autrement que le dans par contre, même s'il y a du dans, il y a du par et du contre, Et du coup, ça nous ouvre un espace de liberté, je trouve, extrêmement important. Alors, enfin, un espace où, du coup, quand il y a un endroit qui coince, là, en l'occurrence, Paris-Ville, par exemple, je crois, enfin, ça pose problème. Et en même temps, ça nous renvoie justement, parce qu'on questionne, on revient à la question des finalités, quoi. Quel rôle j'ai à un moment donné. Et on a tous évoqué notre envie de faire bouger les lignes, je crois, par rapport aux différents endroits dont on en est, et la référence à David Jamar sur finalement, la recherche peut être en sciences sociales, peut être une manière d'engager une action politique. Et que du coup, ça nous renvoie ailleurs sur la façon dont finalement on peut se situer entre différentes institutions et aller chercher chacune les unes des autres ou des espaces autonomes pour ceux qui ont été évoqués et qui ne sont pas, même si on est aussi, on se disait, véhicule de l'institution, même dans notre espace autonome. Mais, et que ça, enfin, voilà, j'ai du mal à le formuler, mais ça ouvre autre chose. Je trouve qu'il nous rend plus, peut-être pas plus libre, mais en tout cas, peut-être au moins plus libre d'esprit dans le fait de s'autoriser à penser par rapport à ces aspects.
Je vais être obligé de proposer que la parole d'Amandine soit conclusive. On a la salle qui est réservée jusqu'à 13h. En plus, on ne serait pas conclusive.